Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile. Deux fois par mois, je pars à la rencontre des écrivains du web, UX writers, content designers, copywriters et autres rédacteurs web. Au cœur de nos discussions, l'utilisateur. Parce que nos métiers servent à dialoguer, à échanger avec un être humain, gardez ça en tête. Aujourd'hui, on va parler avec Hélène Giannessi. Hélène est Conversation Designer. Ça veut dire quoi? Pour la faire courte, elle conçoit des chatbots, des agents conversationnels, des programmes capables de parler avec un humain. On les retrouve un peu partout, de la simple fenêtre qui apparaît quand on navigue sur un site et qui nous demande « En quoi puis-je vous aider ?» au chat plus élaboré jusqu'aux assistants personnels virtuels type Siri, Google Home ou Alexa. Et pourtant derrière ces robots, il y a des humains. Des humains qui conçoivent la conversation, les questions et réponses, même les plus farfelues, le parcours de l'utilisateur et l'expérience globale. Et bien c'est ce que fait Hélène. Elle conçoit la conversation de ses petits robots pour répondre aux questions de l'utilisateur. Hélène a d'abord été UX writer chez The Chatbot Factory, avant de passer son quotidien en compagnie de Jingo, le chatbot mobile et internet d'Orange. Mais trêve de bavardage, je laisse place à ma conversation avec Hélène Giannessi. Bonne écoute! Salut Hélène.
Salut.
Je suis hyper ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
Hélène, tu es Conversation Designer. Tu as d'abord été UX Writer chez The Chatbot Factory pendant un an et demi, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est bien ça, oui.
Depuis octobre 2019, tu es en mission chez Orange où tu fais ami-ami avec Jingo, c'est ça, le chatbot mobile et internet d'Orange. Et en fait, quand tu me dis chatbot, moi je pense tout de suite à la fenêtre en fait qui s'ouvre en bas à droite de mon écran quand je suis sur un site et qui me dit « En quoi puis-je vous aider ?» C'est un peu l'image qu'on a, ou alors tout de suite à un plus haut niveau, les assistants personnels. Donc pour toi, en fait, c'est quoi un chatbot ?
Ben, pour donner une définition ultra simple, un chatbot, c'est un programme informatique qui va être capable de simuler une conversation avec un utilisateur, donc avec un humain. Et en effet, comme tu l'as évoqué, ça peut être cette petite fenêtre de chat en bas à droite d'un site qui te dit « En quoi puis-je vous aider ?» Mais c'est pas que ça, ça peut être par exemple en pleine page de ton site. Un chatbot, il peut aussi être présent sur une plateforme de messagerie, type Messenger, WhatsApp, Slack. Puis en effet, ça peut être aussi du vocal via des applications sur le Google Home ou sur Alexa d'Amazon, où là, du coup, ça va être ce qu'on appelle plus des voice bots. Et puis après, tu as aussi différents degrés d'intelligence, j'ai envie de dire, sur un chatbot. Tu vas avoir un chatbot qui va suivre un parcours hyper scripté, où là, ça va plus être justement le chatbot qui lead un peu la conversation et l'utilisateur qui subit un petit peu le parcours que lui propose le bot, où là, ça va être vraiment j'appuie sur un bouton, ça me déclenche telle réponse, je réappuie sur un bouton, ça me redéclenche telle réponse. Et puis des chatbots dits un peu plus intelligents, où là, derrière, tu vas avoir du machine learning qui va permettre de comprendre la demande de l'utilisateur. Et là, l'utilisateur va pouvoir s'adresser à ton bot comme s'il discutait vraiment avec un humain. Et donc là, c'est l'utilisateur qui va plus guider la conversation et le chatbot qui va le comprendre et lui répondre. Et puis après, tu as les assistants, oui, en effet, personnels, comme tu l'évoquais tout à l'heure, où là, c'est beaucoup plus développé et ça va être du Google Home, du Alexa ou du Siri.
Oui. Et du coup, Jingo, il fait partie de quelle catégorie, on va dire, le chatbot d'Orange ?
Alors, Jingo, il est capable, il utilise un algorithme de machine learning derrière, donc il est capable de comprendre les demandes d'utilisateur et de lui apporter la réponse adaptée, soit vraiment un type de réponse simple, c'est-à-dire une question, une réponse basique et peut-être un renvoi vers une étape du parcours, soit une réponse un peu plus complexe qui va nécessiter de se connecter à une API pour récupérer telle ou telle information sur l'utilisateur. Si l'utilisateur est connecté et qu'on le connaît et qu'on peut se baser sur des infos de son contrat, de sa facture ou ce genre de choses.
Ok. Et juste pour comprendre, pour expliquer le terme machine learning, tu le définis comment ?
Alors, c'est un peu la partie intelligence artificielle du chatbot. C'est vraiment un algo qui va pouvoir apprendre à partir d'un set de données qu'on va lui fournir. Pour les chatbots, c'est ce qu'on appelle la NLP. En fait, c'est la compréhension du langage naturel. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un set d'entraînement à cet algo de machine learning avec des déclinaisons d'une seule et même phrase, mais plusieurs façons de la dire. Par exemple, je veux aller manger au resto, je veux dîner ce soir dans un McDo. je n'en sais rien, c'est des très mauvais exemples, mais en tout cas, on va aller nourrir l'algorithme de beaucoup de phrases qui veulent dire la même chose et qui sont différentes. Et grâce à ça, l'algorithme va pouvoir identifier des patterns dans ces phrases-là qui vont l'aider à comprendre le sens de la demande. Moi, quand je suis rentrée un petit peu dans les chatbots, ça faisait partie de mon boulot. C'est un travail un petit peu de petite main, mais qui est essentiel parce que c'est ce qui permet justement à ton chatbot de mieux comprendre. Et donc, mon boulot, c'était de trouver 30 déclinaisons différentes d'une seule et même phrase pour pouvoir nourrir l'algo de plusieurs exemples.
Et justement, puisque tu l'abordes, comment tu es tombée dans la marmite des chatbots?
Bien écoute, moi j'étais pas... Bon, après c'est un nouveau métier, donc je pourrais te répondre que je rêvais de faire ça quand j'étais petite, mais ça n'existait pas encore, même si je trouve que le boulot est super cool. Non, moi de base j'ai fait market com, et en alternance j'ai été concepteur-rédacteur pour La Redoute. Vraiment au sein de l'équipe marketing, donc je rédigeais des messages qui n'étaient pas vraiment axés utilisateurs, qui étaient plus des messages pour mettre en avant des offres. Et puis à la fin de cette alternance, j'ai eu l'opportunité de venir à Paris pour rejoindre justement la startup que tu évoquais tout à l'heure, The Chatbot Factory, qui est spécialisée dans la conception et le développement de bots. Et donc je suis entrée là-bas pour faire donc ce métier de bot trainer, d'entraîneur de chatbot, où là, voilà.
Tu coachais les bots.
Je coachais les bots, voilà, exactement. Je les rendais intelligents. Non, mais voilà, une grosse partie de mon boulot, c'était de trouver des différentes phrases pour nourrir l'IA derrière le bot, et puis aussi de monitorer après les conversations, c'est-à-dire d'aller regarder ce que l'utilisateur avait dit, ce que le chatbot avait compris, et voir. Eh bien, si tout se passait bien, s'il fallait développer de nouveaux parcours pour répondre à de nouvelles demandes. Et puis, j'avais tout un aspect aussi UX writing, où là, je travaillais en duo avec un UX designer. Et là, notre boulot, c'était d'aller recueillir le besoin chez les différents clients, et puis d'arriver avec une expérience, une personnalité, un nom de chatbot, différents parcours. Lui concevait les parcours, moi, je les rédigeais. Et voilà, et grâce à cette expérience, j'ai eu l'occasion de travailler sur énormément de projets différents. Ça a été hyper enrichissant.
Ouais, tu m'étonnes.
Et voilà, donc j'ai appris énormément sur les chatbots, l'univers, les différents use cases, comment on conçoit des parcours conversationnels, comment on crée une personnalité. Donc voilà, ça a été hyper, hyper intéressant. Et depuis, je n'ai pas arrêté.
Tu t'es passionnée pour ces petits robots, ces petits.
Exactement.
Et tu disais trouver les phrases pour le faire évoluer. Comment tu définissais comment tu définis en fait ces phrases? Comment on initie déjà un chatbot?
Alors c'est une super bonne question. Le chatbot vient pour répondre à des objectifs ou à une problématique utilisateur. Donc, c'est ce qui va vraiment définir le use case de ton chatbot. Pourquoi il faut qu'il y ait une raison d'être un chatbot. Je le précise parce qu'à un moment, il y a pas mal d'entreprises qui voulaient juste un chatbot parce qu'il fallait avoir un chatbot. Et du coup, c'était des chatbots qui étaient créés, mais on savait pas vraiment quels indicateurs il fallait suivre pour que ça soit une réussite ou pas, ou comment ils pouvaient vraiment aider l'utilisateur. Après, voilà, il y a eu pas mal de chatbots qui venaient pour renforcer ou remplacer une FAQ. Bon, c'est tout le temps plus... Le gros avantage du conversationnel, c'est que pour l'utilisateur, ça sera toujours plus naturel de formuler sa demande en parlant, en ayant une discussion, plutôt que d'aller chercher dans tel ou tel sous-menu son information en lisant des gros pavés de FAQ. Donc, il y a eu toute une génération de chatbots qui étaient vraiment pour remplacer une FAQ comme ça. Et dans ces cas-là, les questions à se poser avant, c'est quelles questions de la FAQ sont les plus consultées, où on peut aussi aller lire les conversations que l'entreprise a déjà avec les utilisateurs via les chats, via les centres d'appel, via les réseaux sociaux parfois, quelles sont les demandes les plus récurrentes chez les utilisateurs, quelles sont celles qu'on pourrait automatiser. Donc, il y a ce travail de recherche utilisateur-là à faire. Après, parfois, le chatbot, il va répondre à d'autres problématiques comme augmenter la conversion sur ton site, répondre à telle ou telle problématique sur ton parcours parce que tu vois que là, tu as un ton d'abandon sur ton parcours ou que l'utilisateur a du mal à s'en sortir toute seule à cette étape de son parcours. Donc, enfin, il y a autant de use case de chatbot qu'il peut y avoir de problématiques utilisateurs. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que le chatbot peut répondre à cette problématique et comment ? Et puis après, vraiment, il y a toute une phase de... Donc, au-delà de cette phase d'explo, de recherche, de cadrage, il y a toute la phase de conception des réponses, de conception de la personnalité de ton chatbot, d'entraînement, justement, derrière de l'algo. Enfin, il y a plein de choses, du choix de la plateforme. Est-ce que le chatbot va être sur ton site ? Est-ce qu'il va être sur Messenger ? Est-ce qu'il va être dans une appli ? Est-ce qu'il va être textuel ou vocal ? Enfin bref, il y a beaucoup de questions à se poser au début.
Mais justement, si je reviens sur la recherche utilisateur, du coup, tu dois travailler avec énormément de professionnels différents. Tu vois, ça peut être, c'est aussi les commerciaux, ceux qui sont sur le terrain, c'est les centres d'appel, comme tu disais.
Oui, totalement. Tu travailles avec les centres d'appel, tu travailles éventuellement avec les community managers, tu travailles avec toutes les équipes de connaissances clients s'il y en a dans ton entreprise. Oui, il y a un gros travail de recherche utilisateur, de connaissances clients, de savoir ce que tes utilisateurs veulent quand ils s'adressent à la marque. Et puis après, en retour, une fois que tu as le chatbot, c'est une source de données sur tes utilisateurs qui est quand même hyper enrichissante, de savoir comment l'utilisateur va s'adresser à ta marque, pourquoi il vient parler à ton chatbot, quels sont ses points de douleur. Parfois, tu vas remarquer, si ton chatbot est sur ton site, par exemple, que sur telle ou telle URL, sur tel ou tel parcours de ton site, tu as une explosion des demandes sur ce sujet-là, sur un sujet donné. Et là, tu peux te dire, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à craquer sur le site à cet endroit-là, il y a quelque chose qui n'est pas compris. Donc voilà, le chatbot doit se nourrir d'énormément de données pour être utile, fonctionnel. Et à côté de ça, il va lui-même fournir énormément de données aux autres métiers. Que je sais que moi, je travaille avec le marketing ou avec les responsables du parcours pour aussi leur redonner des retours de ce qu'on lit dans les conversations, ce qui améliore à la fois l'expérience sur le chatbot, mais l'expérience globale de l'utilisateur avec la marque, quoi. Donc,
Ouais, c'est hyper intéressant de travailler en transversalité comme ça avec différents profils dans la boîte. Ça doit être hyper enrichissant. Donc en fait, il y a tout un parcours à imaginer, à tester pour réaliser un chatbot utile et efficace.
Oui, clairement. Après, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vas avoir des types de chatbots où vraiment ça va être de la question-réponse assez simple ou de la redirection. Et donc, il faut quand même réfléchir justement à quelle question on va adresser, à quelle question on va répondre, tout simplement. Et puis après, oui, il y a des parcours un peu plus complexes. Si je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, par exemple, de réservation d'une table au resto, il va falloir imaginer toutes les entrées utilisateurs possibles et puis quelles informations on a besoin pour lui répondre, de quelle façon on va lui demander. Tu vois, si l'utilisateur arrive sur ton chatbot et te dit « je veux réserver une table pour 3 ce soir à 20h dans tel restaurant », tu as déjà toutes les informations dont tu as besoin pour lui réserver sa table. Tu as la date, tu as l'heure, tu as le nombre de personnes, tu as le nom du restaurant. Ton boulot, c'est juste de lui renvoyer une confirmation que tu as compris toutes ces demandes, éventuellement de lui envoyer... le nom du restaurant avec l'itinéraire pour qu'il puisse directement s'y rendre. Enfin, voilà, tu as plein de choses à imaginer. A contrario, s'il te dit juste « je vais aller manger ce soir dans tel endroit », il te manque l'heure, il te manque le nombre de couverts, comment tu vas lui demander. C'est plein de parcours comme ça à imaginer. S'il te dit simplement « je vais aller manger ce soir », peut-être qu'il attend de la reco. Et dans ces cas-là, quelles informations tu possèdes sur lui ? Peut-être que tu as l'historique des restaurants dans lesquels il est allé manger et tu peux t'inspirer de ça. Peut-être que tu vas lui poser des questions pour comprendre un petit peu ses envies du moment. Est-ce qu'il veut manger italien, elfi, végé ? Enfin, tu as plein de parcours à imaginer comme ça. Alors, à partir d'un use case qui serait simplement juste réserver une table au restaurant. Donc oui, ton boulot, enfin le boulot du UX designer, c'est aussi de réfléchir à ces parcours-là et de faire tous les arbres de conversation, tous les flots différents en fonction de ça.
Tu as l'air hyper passionnée par ce que tu fais, par ton boulot, parce que du coup, vous ne le voyez pas, mais Hélène est tout sourire et elle a l'air tellement passionnée. Et je me demande du coup, qu'est-ce qui te plaît plus dans le fait de designer, de travailler autour des chatbots?
Ben écoute, je pense que puisqu'il y a un peu autant de chatbots qu'il peut y avoir de use case, donc c'est hyper enrichissant de travailler tout le temps sur des choses différentes. Là, je viens de te prendre l'exemple de réservation de table de resto, mais j'ai jamais travaillé sur un bot qui fait ça. Tu vois, tu peux travailler pour un chatbot qui va te faire de la reco. Ça pourrait être de la reco de forfait mobile, mais ça pourrait être de la reco de cosmétique qui va te faire ton petit diagnostic de peau. Et en fait, à chaque fois, puisque c'est toi qui conçois cette conversation, que c'est toi qui va réfléchir aux réponses, eh bien, t'apprends énormément de choses aussi, sur les métiers, sur les produits. Voilà, au final, à la fin, tu connais autant de choses que le chatbot. Tu pourrais être le chatbot. Donc, je trouve ça hyper enrichissant de travailler sur plein de projets différents. Là, aujourd'hui, je suis chez Orange, j'apprends plein de choses. Avant ça, j'ai travaillé avec plein d'entreprises différentes et j'ai appris plein de choses. Donc je pense que c'est ça qui me drive un petit peu. Et puis pour une réponse un peu peut-être plus gnangnan, moi, quand j'étais jeune, je lisais les livres dont vous êtes le héros et il fallait faire des choix et ça t'a porté vers une... Et je sais pas, ça me fait un peu penser à ça, de rédiger différents flots de conversation comme ça. De se dire, ok, si l'utilisateur nous dit ça, ou s'il clique là, on va l'embarquer là. Des fois, c'est bien plus terre-à-terre, hein, si c'est des chatbots d'assistance, d'explication de facture ou ce genre de choses. L'exemple du resto, c'est les trucs cool où tu vas peut-être lui demander son mood pour lui proposer tel ou tel resto, et du coup, c'est hyper intéressant. Mais dans tous les cas, c'est toujours hyper utile, hyper enrichissant de pouvoir apporter une réponse à l'utilisateur de manière super claire et de dialoguer avec lui. Puis bon, voilà, c'est cool que ce soit tout automatisé, que ce soit un logiciel qui soit derrière tout ça et qui traite toutes ces demandes.
Mais ça donne vraiment envie. Et du coup, tu te dirais quoi? Quelles sont en fait les compétences, tu vois, si on veut devenir designer de chatbot? C'est quoi les compétences? Tu vois, ça diffère quand même vachement d'un UX designer classique ou d'un UX writer classique?
Après, j'ai envie de te dire que les règles de base sont quand même un peu les mêmes sur l'UX writer. On a beaucoup d'UX writers on a des UX writers qui travaillent sur les bots avec nous, et heureusement. Mais voilà, les règles de l'UX writing, d'être clair, concis, utile, sont les mêmes appliquées aux chatbots. C'est pas les mêmes contraintes. Quand t'es UX writer pour un site, tu vas avoir des contraintes de micro-copie qui vont être de trouver la bonne formulation pour tel CTA ou tel menu. Mais au final, sur un chatbot, c'est un peu pareil parce qu'on est quand même limité dans le nombre de... dans la longueur des messages, j'ai envie de te dire. Je pense qu'on a tous... on connaît tous quelqu'un qui envoie des pavés en message. Tu le lis, déjà, t'es obligé de scroller pour avoir le début du message et ça te démotive totalement. Et à contrario, on connaît tous des gens qui envoient... un mot par bulle, et du coup, ça arrive sans cesse. Et le but pour un chatbot, c'est justement de pas imiter ces deux personnes un petit peu reloues, et de envoyer le bon nombre de messages, les bonnes longueurs. Ce qui est communément accepté, c'est d'envoyer 3 bulles, ou du moins de tout le temps éviter le scroll. T'as des notions de rythme aussi, de temporiser les messages. Parce que concrètement, un bot, à partir du moment où l'utilisateur a cliqué sur envoyer, il pourrait directement envoyer la réponse sans qu'il y ait sans qu'il y ait de rythme, sans qu'il y ait de temps entre les différentes bulles. Là, le but, puisque c'est quand même d'imiter une conversation un petit peu avec un humain, on va venir temporiser, on va mettre le typing indicator, tu sais, le truc qui te montre que la personne de l'autre côté est en train d'écrire. Bref, il y a plein de choses à voir comme ça, l'UX writer est hyper utile parce que c'est avec lui qu'on va décider de tout ce genre de choses. Et au final, je pense que c'est un peu quand même les mêmes contraintes que quand tu es sur un site. Alors bien sûr, après, c'est du conversationnel et tu vas vraiment imiter un dialogue. Donc forcément, dans les formulations, ça va être encore totalement différent. Tout à l'heure, je te parlais de personnalité, du chatbot. Ça, c'est une phase qui est hyper, hyper cool, où vraiment tu vas définir la personnalité de ton chatbot en fonction des utilisateurs, en fonction du use case et en fonction aussi de l'ADN de la marque, des valeurs de la marque, de la brand voice. Et à ce moment, quand tu designes la personnalité, c'est là que tu vas trouver le nom, mais tu vas lui donner un âge, tu vas lui donner un genre, une apparence visuelle. Tu vas aller beaucoup plus loin en lui trouvant des hobbies, quel est son sport préféré, son film préféré. Tu peux lui faire une bio Tinder si ça permet de faire ressortir telle ou telle personnalité. Et à partir de ça, tu vas trouver le tone of voice. Et le travail avec l'UX Writer est hyper cool à ce moment-là, de se dire, est-ce qu'il va tutoyer, vous voyez, est-ce qu'il va envoyer des emojis, est-ce qu'il va utiliser des gifs, comment il va répondre quand on lui demande si ça va, comment il va répondre quand on l'insulte.
Oui, c'est vrai.
C'est quelque chose qu'il faut prévoir parce qu'on en a beaucoup. Comment il va répondre si tu lui demandes de raconter une blague, si tu lui demandes en mariage. Enfin, voilà, il y a tout ce travail-là. Donc oui, ça diffère d'un travail du X-Writer classique parce que tu as tout cet aspect justement de personnification. Excusez-moi, je me disais que c'était pas le bon mot. Et voilà, donc c'est ça qui diffère au niveau du X-Writing. Au niveau du design, oui, c'est sûr, parce que tu vas créer des flots de conversation, ça diffère aussi, mais c'est pareil, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu dois quand même tout le temps répondre à une problématique utilisateur, tu vas te baser sur de la data, ton but, ça va être vraiment de fluidifier le parcours, de fluidifier la conversation, donc au final, les bases sont les mêmes, et après, tu as des spécificités, des spécificités propres aux conversationnelles, quoi. Mais je pense qu'un UX designer ou un UX writer peut quand même facilement faire du design conversationnel une fois qu'il a bien en tête aussi les contraintes qu'on a sur du conversationnel.
Ouais. Et d'ailleurs, du coup, c'est ma question de tout à l'heure est revenue justement sur le tone of voice. T'en as parlé. Et au final, tu dois réaliser tout ce travail à nouveau, c'est pas le tone of voice de la marque, enfin même si c'est adapté, mais c'est encore un nouveau travail que tu fais.
Oui, alors on se base vraiment sur le tone of voice de la marque, en effet, mais oui, tu le réadaptes parce que déjà le tone of voice peut être différent au sein d'une même conversation, parce que tu vas aussi aller t'adapter à ce que l'utilisateur te dit, s'il est dans un moment où vraiment il a un problème. Tu vas peut-être pas te permettre de faire de l'humour ou de lui envoyer des emojis, tu vas plus être dans une position rassurante. Après, s'il est dans une démarche d'achat ou de conseil, ou toi tu es en position de conseil, de recommandation, tu vas pouvoir peut-être te permettre d'être plus cool, d'être plus fun. Donc tu vas avoir le tone of voice qui va s'adapter au fur et à mesure de la conversation, après qui va s'adapter aussi à la marque, quoi. Peut-être qu'on va te dire, tu vas avoir un chatbot qui va commencer par bonjour madame Rouzé. Ce sera peut-être le chatbot de ta banque, je n'en sais rien, tu vois. Tu vas avoir un autre chatbot qui va dire hey Apolline. Ce sera le chatbot. Donc c'est en rapport avec le tone of voice de ta marque, forcément. Après, ça va être en rapport aussi avec le use case du chatbot, quels sont les utilisateurs de ton bot.
Mais c'est un travail de dingue, en fait. Enfin, parce que c'est un peu comme le livre dont tu parlais tout à l'heure et aussi les jeux vidéo, tu dois imaginer tellement de scénarios différents. Enfin, c'est pas en un claquement de doigts comme pourraient penser, je pense, beaucoup de personnes, notamment sur la petite fenêtre justement qui s'affiche en bas à droite, on dirait que c'est en un claquement de doigts, tu fais un bot, mais là, dans ce que tu dis, et encore plus, je pense, avec Jingo, c'est tu dois imaginer tellement de scénarios différents, en fait, c'est un travail de dingue.
Oui, c'est sûr. Moi, ce que je dis souvent, c'est que un projet bot n'est jamais vraiment fini. C'est vraiment tout le temps de l'amélioration continue. C'est vraiment tout le temps du monitoring des conversations, de comment on peut encore améliorer l'expérience pour plus la personnaliser, quels outils on pourrait connecter au chatbot pour qu'il puisse aider l'utilisateur dans son parcours de bout en bout, peut-être même aller jusqu'à la souscription de telle ou telle offre. Tu peux très bien commencer avec un chatbot, avec un MVP, où tu as choisi quelques questions qui sont les plus récurrentes, parce que tu sais quelles sont les demandes les plus récurrentes. Donc tu peux très bien commencer avec un petit chatbot qui va répondre à, ou qui va avoir un nombre de parcours restreint ou un nombre de questions restreint, et puis le développer au fur et à mesure, ne pas l'ouvrir peut-être à 100% du trafic, voir les questions qui arrivent, et dans ces cas-là, ben, c'est de l'amélioration continue et c'est jamais terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus passer trop de temps en amont du projet à vouloir vraiment faire le chatbot parfait du premier coup avec un nombre de parcours hallucinant ou un nombre de questions hallucinantes. Limite, c'est peut-être même contre-productif parce que tu vas penser que les utilisateurs vont poser telle ou telle question, puis tu vas te rendre compte qu'elles ne sont jamais déclenchées, que tu n'en as pas besoin. Donc, il vaut mieux peut-être commencer petit et le faire grossir. Après, c'est sûr que par contre, il y a un travail de cadrage et un travail de... voilà, de définition du tone of voice qu'il ne faut pas négliger. Quand tu es sur une interface graphique, voilà, tu ne négliges pas les couleurs que tu vas choisir sur ton site. L'aspect visuel, l'aspect graphique de ton site, c'est vraiment... c'est quelque chose qui était peut-être négligé avant, justement, tout au début. Et puis, tout le monde s'est rendu compte que c'était hyper essentiel. Là, dans le conversationnel, tu n'as pas vraiment d'interface graphique à part la fenêtre de chat. C'est vraiment... tout va passer par, le tone of voice. Et le texte, donc c'est hyper important de définir une personnalité. Tu choisis pas une personnalité au hasard, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui va parler à tes utilisateurs, quoi.
Comme tu disais tout à l'heure, faut pas avoir un bot pour avoir un bot parce que c'est tendance, etc. Mais c'est vraiment avoir un objectif derrière et ça reste un outil en fait au service de.
Exactement, il faut que ton chatbot réponde à une problématique utilisateur. Si tu viens polluer leur fenêtre. Et puis qu'au final il t'adresse un message et que t'es pas capable de le comprendre parce que tu l'avais pas prévu, parce que voilà, tu as été un petit peu à côté de la plaque dans ce que t'as appris à ton chatbot. Déjà ton chatbot est pas spécialement utile, en plus c'est hyper déceptif pour l'utilisateur. Et les chatbots ont quand même une mauvaise réputation, faut pas le nier. Il y a pas mal de réfractaires quand même aux chatbots, pas mal d'utilisateurs qui ont été déçus parce que ils ont été confrontés à des chatbots qui n'étaient pas forcément super bien conçus ou super bien entraînés, qui les a lancés dans une boucle de « désolé, je n'ai pas compris, reformulé », le truc qui est hyper, hyper agaçant. Donc, il faut réussir à récupérer ces utilisateurs-là qui sont parfois réfractaires dès qu'ils ouvrent la fenêtre de chat et qu'ils voient que c'est un chatbot. Ils ne veulent pas parler à un chatbot. Il faut aussi leur laisser la possibilité, s'ils ne veulent pas du tout parler à un chatbot, de pouvoir parler à un humain. Il ne faut pas les piéger et leur dire « Non, il faut absolument passer par le bot pour avoir ta réponse. »
C'est vrai qu'il y a des sites, ça m'est déjà arrivé, où il y avait juste cette possibilité-là. Il n'y avait même pas de contact, de mail ou de formulaire de contact.
Bah oui, et c'est hyper déceptif pour l'utilisateur. Le chatbot, il est là pour lui simplifier la vie. Si, dès la première demande, il nous informe qu'il préfère parler à un humain, le but, c'est de ne pas le piéger avec le bot. S'il préfère parler à un humain, il faut lui donner une solution de contact, que ce soit dans la fenêtre de chat, que ce soit un numéro de téléphone, un mail, enfin quelque chose qui lui permette de répondre à son besoin, quoi. Donc voilà, il faut vraiment que le bot soit là pour aider l'utilisateur et pas simplement peut-être pour justement éviter des appels à des centres ou...
Ouais, et du coup, il doit y avoir quand même pas mal de tests utilisateurs, ça doit être quand même... Ou alors tu considères aussi ces tests en live, on va dire, avec les retours des utilisateurs, les questions qui posent et que vous n'aviez pas forcément imaginées.
Oui, il y a un peu un mix des deux. Hein. Si on développe un parcours qui est plus complexe, où on veut vraiment avoir des retours utilisateurs tout de suite, par exemple de la reco, du dépannage, ce genre de choses, oui, on va organiser des tests utilisateurs. Après, en effet, puisqu'on a énormément de retours, puisque c'est des conversations, on peut très bien lancer une feature ou un nouveau parcours sur une petite partie du trafic, et après, quand c'est possible, parce que sur Messenger, on se lance tout de suite dans le grand bain, par exemple. Mais on peut lancer ça sur une petite partie du trafic, récupérer les infos et voir comment réagit l'utilisateur. Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce que les réponses qu'on lui envoie sont suffisantes? Est-ce qu'il va là où on voulait l'amener? Ou est-ce qu'il abandonne la conversation? Enfin, il y a plein de choses qu'on peut vérifier.
Ouais. Et concrètement, chez Orange, toi, tu fais quoi?
Donc, moi, maintenant, je suis UX designer. Donc, je travaille en duo, du coup, avec un UX writer sur Jingo, en effet, sur Jingo Shop. sur la boutique Orange, au grand public. Et donc, j'ai une grande partie de mon taf qui va justement être de soit d'améliorer les parcours existants, soit de trouver de nouveaux parcours à développer en fonction bah, justement des conversations qu'on peut lire, des nouvelles demandes utilisateurs. Je travaille aussi du coup avec avec les personnes responsables du site, des parcours du site, pour justement se dire bah, peut-être qu'à cet endroit-là, Jingo aurait une raison d'être parce qu'on voit qu'on a des blocages sur telle ou telle chose et que Jingo pourrait aider l'utilisateur à ce moment-là du parcours. Donc voilà, j'ai vraiment un travail de recueil du besoin, que ça soit côté utilisateur ou peut-être côté site. Et puis après, je vais justement, ben, comme je te le disais tout à l'heure, concevoir la réponse, donc imaginer les parcours, soit en fonction de ce qu'on sait sur l'utilisateur parce qu'il est connecté et qu'on a accès du coup à son contrat et que du coup, on peut l'aider à changer de forfait ou à le rediriger vers le bon endroit du site pour lui. Soit s'il n'est pas connecté, eh bien à lui poser les bonnes questions pour comprendre son besoin et le pousser soit vers la bonne offre, soit vers la bonne réponse. Il y a plein de choses à faire. Donc
Ah, c'est chouette. Et concrètement, ça a changé quoi pour Orange?
Écoute, je sais pas si je vais répondre pour Orange en particulier ou plutôt pour toutes les boîtes parce que je pense que ça a plein d'avantages. Après, ça dépend encore une fois de l'objectif que tu t'es donné pour ton bot. Peut-être que ça va être un objectif de réduction d'appels au centre d'appel ou de recours à des conseillers. Et du coup, pour l'entreprise, ça va être à la fois un gain financier, mais aussi pour les conseillers, ça va être aussi leur enlever des tâches fastidieuses qui sont de répondre à la même demande toute la journée. Qui sont des demandes qui sont un peu plus simples à traiter pour justement leur laisser le temps de bien traiter les demandes qui sont plus complexes. Donc là, tu as un double gain. Et puis, ça peut être aussi justement d'améliorer ton taux de transfo ou de faire de la vente parce que tu es dans une démarche plus d'e-commerce. Et là, du coup, ça peut être un de tes objectifs. Et puis, depuis tout à l'heure, on parle énormément des chatbots. Enfin, depuis tout à l'heure, on parle même exclusivement, j'ai envie de te dire, des chatbots un petit peu grand public. Mais un chatbot, ça peut être aussi dédié en interne. Enfin, ça peut être dédié à tes employés. Ça peut être dans de la ressource humaine, que ce soit vraiment en amont, c'est-à-dire dans le processus de recrutement. Ça peut aider ton entreprise dans le processus de recrutement, ça peut aider ton entreprise dans l'onboarding de tes nouveaux collaborateurs, leur expliquer les outils, leur présenter la boîte, ça peut être de la gestion de la réservation de salles de réu, ça peut être de la gestion de congés pour aider les collaborateurs à poser leurs congés. Enfin, t'as plein de choses, ça peut aider tes vendeurs dans un magasin pour vérifier des stocks, pour gérer des retours. Ça peut être du vocal sur des chaînes de production. Ouais, il y a plein de choses.
J'avais jamais pensé à ça en interne. Et t'en connais des boîtes qui ont mis ça en place en interne ou toi, t'as déjà travaillé là-dessus?
Ouais, il y en a pas mal. Justement, sur des exemples que je t'ai cités, soit de réservation de salle de réunion, soit d'onboarding de nouveaux collaborateurs. Pas mal aussi de chatbots dans le process de recrutement pour justement présenter les différentes missions, peut-être pré-qualifier les profils via des questions. Et puis, ça peut être aussi vraiment pour les vendeurs de leur faciliter les gestions de retour quand la politique de retour de la boîte peut être peut-être complexe. Les stocks dans les chaînes de production, ça peut les aider aussi s'ils ont des... Et là, du coup, ça va plus être du vocal généralement, mais s'ils ont un problème avec une machine ou avec un produit... Ça peut les aider à qualifier leurs problèmes et peut-être à y répondre. Donc oui, il y a plein de...
Ah oui, hyper intéressant. C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Et si jamais, en fait, un utilisateur dit quelque chose de confus ou alors que le bot comprend pas, comment on pallie à ça?
Oui, généralement, il y a plusieurs choses. Soit le chatbot n'est pas sûr de ce qu'il a compris parce que c'est trop proche de deux questions qu'il connaît et il sait pas laquelle choisir et là il va proposer à l'utilisateur, il va lui dire je suis pas sûr de t'avoir compris, qu'est-ce que tu voulais dire, et il va lui proposer les questions avec lesquelles il, il est en train d'hésiter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reformulation et c'est ce qui peut permettre à l'utilisateur du coup d'avoir quand même sa réponse. Soit il n'a rien compris du tout et dans ce cas-là, eh bien, il va le demander à l'utilisateur de reformuler parce que peut-être que c'est une formulation qu'il n'a pas su reconnaître ou qui était trop proche d'une autre. Et qu'en formulant la demande ou que l'utilisateur a formulé sa demande mais vraiment avec une phrase hyper longue où il a donné beaucoup de détails, du coup ça a un peu perdu l'algo qui est derrière et du coup va demander de reformuler peut-être plus brièvement et dans ces cas-là, bah, soit il comprend et l'utilisateur a sa réponse, soit il ne comprend toujours pas et ce qui est communément admis dans ces cas-là, c'est de pouvoir lui donner lui fournir une autre solution qui est du contact humain généralement, de dire ben, désolé, j'arrive pas à te comprendre, je peux te mettre en relation avec un humain, voici le numéro du service client, on pourra peut-être mieux te répondre. Mmh.
Mais du coup, ouais, c'est vrai que même si c'est un robot, au final, c'est un humain qui parle derrière parce que c'est des gens qui l'ont fait. Et au final, il y a vraiment qu'un humain pour réussir à parler à un autre humain, en fait. Le chatbot, c'est l'outil juste de l'intermédiaire, en fait. C'est un robot, certes, mais au final, pour l'instant, il n'y a vraiment qu'un humain pour réussir à parler à un autre humain.
Ah bah oui, oui, c'est sûr que derrière le chatbot, les personnes qui conçoivent le chatbot sont des humains. Et le but aussi, c'est en plus de rendre la conversation la plus humaine possible. Donc, sans pour autant mentir à l'utilisateur en se faisant passer pour un humain, le but, ça va vraiment être de fluidifier la conversation et de simuler une conversation avec un vrai humain derrière. Donc, on va travailler forcément dans ce sens-là. À côté de ça, il faut que le chatbot puisse passer la main à un vrai humain s'il ne comprend pas une demande ou si, même s'il la comprend, mais qu'il sait qu'il ne pourra pas la gérer. Mais en effet, tout ça, c'est prévu par des humains. Le chatbot n'est que là pour automatiser les réponses, traiter un gros nombre de demandes simultanément et pouvoir les comprendre et envoyer la réponse qui a été prévue, en effet, par un humain.
Et ce qui me fait penser, Jingo, du coup, je ne sais pas trop comment ça se matérialise, mais est-ce qu'il dit « Salut, c'est Jingo, votre... votre... partenaire, votre, je ne sais rien. Ouais. Il dit quoi de base?
Alors oui, alors il dit pas salut. Ouais.
Il dit bonjour. Ouais.
Mais il se présente. C'est ce qu'on appelle l'onboarding. Donc ça va être vraiment le moment où il va dire bonjour, il va se présenter, donc il va donner son nom et puis il va expliquer un petit peu son périmètre pour que l'utilisateur aussi sache pourquoi il est là.
Ok. Parce que qu'est-ce que tu penses parce que c'est vrai que moi quand je vois des petits bots, enfin je reviens sur la fenêtre en bas à droite qui s'affiche généralement sur les sites parce que c'est ce que je vois quand même le plus souvent et qu'on a l'impression que ça se fait comme ça et au final c'est pas hyper hyper utile, impactant. Mais souvent c'est marqué salut c'est Pierre. Enfin qu'est-ce que tu penses le fait de mettre une photo d'un humain même si c'est quelqu'un de la boîte, de mettre un prénom, enfin. Je ne sais pas si c'est du coup honnête en fait et transparent.
Donner un prénom, pourquoi pas si ça matche bien avec la personnalité de ton bot. Si ton bot, tu as décidé que ton bot était genré, que c'était vraiment une fille ou un garçon et que ça va bien avec ton use case, parce que je ne sais pas, il est censé, tu vois, je pense qu'à un moment on travaillait sur un chatbot qui était le sommelier. On lui avait donné un prénom très français, c'est un homme, c'est un avatar avec une petite moustache, enfin, voilà, parce que ça allait bien avec le use case. Après, ce que je te disais, donner un prénom humain, rendre la conversation la plus humaine possible, c'est bien, mais il faut jamais cacher le fait que c'est un chatbot qui est derrière. Après, bon, lui donner une apparence humaine, moi, je ne suis pas vraiment pour, mais bon. Ouais.
Ça pourrait tromper un peu quelqu'un qui n'est pas forcément familier, qui est. Tu pourrais dire, ah, bah, il y a quelqu'un qui est en ligne, cool, je vais pouvoir échanger avec, mais en fait, non, il n'y a personne, là, c'est juste le bot qui est en ligne, quoi.
Je suis d'accord, je suis d'accord. Une des questions qui se pose souvent quand on rédige un onboarding, c'est comment bien faire comprendre. Que c'est un chatbot, donc parfois ça passe par le petit emoji robot en fin de phrase et puis après quel terme utiliser, est-ce qu'on utilise assistant virtuel, est-ce qu'on utilise chatbot, est-ce que les gens sont assez familiers avec le terme chatbot, après ça peut passer par du coup quand tu expliques le périmètre, dire j'ai été conçu pour, ce qui va montrer, enfin pour insister sur le fait que bon voilà, c'est pas un humain derrière, c'est un logiciel qui a été conçu pour répondre à ces questions. Enfin, ça passe aussi dans le wording, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut que ça soit clair dès le début, dès les premières bulles, que ça sera pas un humain derrière, que c'est bien quelque chose qui est virtuel. Même si généralement on s'en rend assez vite compte, mais c'est important que ça soit bien clair.
Ouais, ouais, c'est clair. Hein. Et puis en termes ouais d'honnêteté, d'accessibilité, je pense que c'est important d'être transparent dès le départ. Et vu qu'on en parle, c'est quoi un bon chatbot pour toi ?
Oh là là, c'est quoi un bon chatbot pour moi ? Un bon chatbot pour moi, c'est un chatbot qui va être utile, qui a été mis là pour une raison. Qu'importe la raison, mais qui va vraiment servir l'utilisateur. C'est un chatbot qui aura justement, comme je le disais tout à l'heure, sa personnalité propre et son tone of voice, qui va savoir bien reconnaître les demandes d'utilisateurs, donc un chatbot qui va être bien entraîné, qui va avoir un périmètre bien défini, qui va couvrir une grosse partie des demandes principales, et qui va savoir aussi soit reconnaître des demandes qu'il n'est pas censé traiter et pouvoir du coup rediriger vers un humain, ou qui va savoir aussi reconnaître quand il n'a pas compris, c'est-à-dire dès la deuxième fois par exemple, et qui va aussi passer la main à un humain. En tout cas, c'est un chatbot qui va savoir aussi passer un relais, que ce soit, je te le disais tout à l'heure, dans la fenêtre de chat, un numéro, un mail, n'importe quoi, mais qui va pouvoir aussi permettre à l'utilisateur de contacter un humain. Ça va être un chatbot qui va envoyer le bon nombre de messages à la bonne longueur, qui va peut-être utiliser des formats riches quand c'est possible, c'est-à-dire envoyer des photos, des vidéos. Il y a plein de petits formats aussi qui peuvent être utiles. Et puis qui va éventuellement, si c'est possible, savoir se baser sur les données qu'on connaît de l'utilisateur pour pouvoir lui apporter une réponse plus personnalisée en fonction de son compte ou de son contrat.
Et du coup, si une boîte veut lancer un chatbot, c'est vrai que ça nécessite quand même pas mal de ressources humaines, mine de rien. Et tu leur conseillerais quoi, de commencer par quoi, en fait ?
Écoute, après, on peut développer un chatbot quand même assez facilement. Il existe des plateformes qui vont te permettre de développer ton chatbot un petit peu clé en main, c'est-à-dire avec parfois même un pré-entraînement des questions récurrentes dans un domaine particulier. Ça existe, par exemple, dans de la banque ou de l'assurance, où vraiment, c'est des questions quand même assez, assez récurrentes, ou de l'aide à la connexion, tu vois, quel est mon identifiant, j'ai perdu mon mot de passe, ce genre de choses, ou qui peuvent être communes à plein d'entreprises. Et du coup, des fois, tu as des sets d'entraînement déjà prédéfinis, ce qui te fait gagner quand même énormément de temps, et qui peuvent quand même, en plus, répondre à un vrai besoin que tu as. L'aide à la connexion, ça peut être vraiment... une cause d'appel vers des services clients qui est énorme, et en plus qui est hyper fastidieux, quoi, parce que ça peut être super bien automatisé. Enfin bref, donc t'as des use cases de bots qui sont quand même assez simples, et du coup qui ne vont pas nécessiter un temps de développement hyper long. Et je te dis, t'as des plateformes qui font vraiment des trucs un peu clés en main, avec des modules de feedback, des modules de relais conseillers, des onboarding un petit peu. En tout cas, où t'as plus qu'à remplir avec ton texte, et voilà, ça s'envoie, des fenêtres de chat déjà designées, que tu peux customiser aux couleurs de ton site. T'as des plateformes qui sont très bien faites, qui te permettent de réaliser des chatbots qui sont bien, qui te permettent de les monitorer aussi, donc de lire les conversations, de pouvoir. Donc, tu peux quand même mettre en place un chatbot en ayant besoin de peu de ressources humaines, en ayant des plateformes qui vont te développer le chatbot que tu n'auras plus qu'à plugger sur ton site. Donc voilà, il y a des choses qui sont très très bien faites pour des use cases assez récurrents que les bots traitent très bien. Après, c'est sûr que si tu veux faire une grosse expérience, une belle expérience, tu vois, une entreprise, je ne sais pas, si tu es une mutuelle, les demandes pour une mutuelle, ça va être le même un petit peu sur toutes les mutuelles. Ça va être ton tableau de couverture, comment envoyer un devis, j'ai pas encore eu ma facture, j'ai pas encore eu mon remboursement, pardon. Je veux recommander, j'ai perdu ma carte de mutuelle. Enfin, c'est des demandes qui seront communes, mine de rien, à tout un secteur. Donc voilà, tu peux facilement quand même développer un chatbot où là, tu n'as plus qu'à rédiger des réponses qui sont adaptées à mutuelle, à toi, connecter quand même telle ou telle API peut-être pour voir quel contrat, quelle garantie à cet utilisateur, mais ça se fait quand même relativement simplement et c'est des choses qui sont utiles et pour lesquelles un chatbot est pas cohérent, le mot à je ne trouve pas mon mot, mais efficace en tout cas.
Et du coup, pour toi, comment t'imagines l'avenir des chatbots ? En plus, j'imagine tu dois avoir 36 000 idées de bot type pour tel secteur. Bah là, tout à l'heure, tu imaginais les restaurants, mais pour toi, c'est quoi l'avenir des chatbots ?
Je pense que les chatbots vont continuer sur la voie que je suis en train d'emprunter, qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire des chatbots avec des expériences assez simples, comme ce que je viens de te dire, qui vont pouvoir apporter une réponse 24 sur 24 et une réponse instantanée aux utilisateurs et qui vont être vraiment de la question-réponse basique et qui vont très bien faire leur travail. Et puis je pense que tu vas continuer d'avoir des chatbots un peu plus développés. Ce que je trouve super cool en ce moment sur le marché, en tout cas je trouve, c'est que t'as pas mal d'entreprises qui commencent vraiment à comprendre la valeur des chatbots et qui donnent les moyens humains et financiers d'en développer des très bien. Y a encore peu d'entreprises vraiment qui dédient des équipes complètes aux chatbots, mais il y en a de plus en plus. Et donc ça va vraiment devenir quelque chose. Un service à part entière, un moyen de contact à part entière pour les entreprises.
Ouais, et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que tu dois quand même bien t'amuser à imaginer, à faire évoluer le chatbot. Je pense que ça doit être assez drôle, assez plaisant à faire, quoi.
Ah mais carrément, carrément. Après, on est parfois encore un peu limité dans la techno. La techno s'améliore de jour en jour, mais c'est vrai que voilà, la langue française est hyper riche. Un humain va être capable de détecter de l'ironie là où un chatbot va pas être capable forcément de le détecter maintenant. Donc il y a encore plein d'améliorations possibles dans les chatbots, mais c'est en bonne voie. Donc plus déjà on va améliorer les capacités de compréhension du chatbot, plus les expériences vont être encore plus waouh. Et riche et complète. Et puis voilà, plus les entreprises vont vouloir mettre des moyens humains pour développer un chatbot, plus on va avoir des chatbots vraiment utiles et agréables.
Ouais, complètement. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour, c'était hyper intéressant. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter ou pas, quelque chose que j'aurais pas forcément abordé ?
Mais je pense que c'est encore assez peu connu et que ça mérite de l'être parce que voilà, ça a plein d'avantages, que ce soit pour les entreprises ou même pour c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant à faire. Donc ça peut-être donner des idées aussi à des personnes qui nous écoutent, des UX writers, des UX designers qui voudraient se reconvertir. Voilà, et puis pour les entreprises, ça apporte, on ne va pas citer tous les avantages qu'on a pu citer tout au long de. C'est une techno qui permet de faire plein de choses, qui est hyper intéressante.
Et ma dernière question, si on veut échanger avec toi encore plus sur le sujet, où est-ce que c'est plus adapté ?
Oui, généralement sur LinkedIn. Donc voilà, Hélène Genesi.
Ok, ça marche. Écoute, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, hyper chouette, ouais.
Merci à toi.
Un grand merci à Hélène pour ces échanges. Je ne connaissais pas du tout l'envers du décor de la conception de chatbot et je dois dire qu'après cette conversation, je m'y prendrai bien au jeu. Je trouve ça hyper fascinant d'imaginer le parcours, les questions, les réponses et comme le disait Hélène, c'est un peu comme un jeu de rôle ou ces livres ou jeux vidéo où l'on choisit un scénario parmi des tas de possibilités. Comme d'habitude, vous retrouverez les notes de l'épisode et ressources citées sur mon site apollinerouze.fr. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note, comme en 5 étoiles,
sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça m'aide à le faire grandir et surtout à savoir s'il vous est utile ou non. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour prolonger les échanges. Dernière petite chose avant de vous quitter, si vous souhaitez améliorer concrètement les contenus de votre interface web ou mobile, je vous donne rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à ma newsletter. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao !